Soyez le bienvenu. Welcome. This is our first panel of the day, and there is simultaneous translation. So it seems to me a little ridiculous for me to speak in French and then be translated into English, so I'll speak in English and be translated into French. But anybody can intervene in either language. So without further ado, I'll present the panel Doctrine et Corpus, Partie 1. We have three papers, Matt Swagler from Columbia University, Neither Communism Nor African Socialism, African Youth and the Use of Marxist Texts, Léon Sor from SECRIMAF, on dit? IMAF, SECRIMAF, Le Rwanda de Kayabanda, Un Avatar Démocrate Chrétien des Socialismes Africains, and Klaas van Walraven from Leiden, The Vicissitudes of Socialist Doctrine in the Sawaba Movement in Niger, 1954 to 65, 15 minutes each. My colleague Marta Craveri will be a very severe policewoman. On the time question, the two of us will speak for maybe 2 or 3 minutes at the end, and then everything will be open for discussion. So without further ado, we'll start with the presentation of Matt.
Ah, okay. Le 30 mai 1968, le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, a fait un discours à la radio nationale pour blâmer les étudiants et les travailleurs sénégalais. Quelques jours plus tôt, les étudiants de l'université de Dakar avaient lancé une grève illimitée, des cours et des examens, pour protester contre les réductions des bourses d'études. En réponse à ce mouvement, les forces de police ont saccagé le campus, expulsé et arrêté les étudiants. Dans son discours, Senghor a réfuté les accusations des étudiants selon lesquelles il était une valet des capitaux et des gouvernements étrangers. En outre, il a réaffirmé son autorité en tant que marxiste, tout en se moquant du radicalisme versatile des manifestants, je cite, hier trotskiste et anarchiste, aujourd'hui maoïste. Il reproche aux étudiants d'admirer Mao Zedong sans avoir lu ses écrits attentivement. Il mentionne deux citations de Mao, rappelant qu'aucun changement ne se réalisait en un jour. Ainsi, la mise en œuvre du socialisme requiert que les jeunes s'efforcent de développer l'économie au cours des prochaines décennies. L'appel du Senghor pour la persévérance n'a pas empêché les travailleurs de se mettre en grève le lendemain, et le soulèvement s'étant propagé partout à Dakar. Le discours de Senghor nous rappelle que durant les années 60, les nouveaux chefs des États africains et ces jeunes opposantes se sont farouchement querellés sur la définition du socialisme. Dans cette communication, je m'intéresse aux organisations de jeunes et d'étudiantes tant au Sénégal qu'au Congo-Brazzaville, à partir des années précédentes l'indépendance en 1960 jusqu'à la fin de cette décennie. Durant cette période, ces organisations ont lancé des défis d'envergure à leurs nouveaux gouvernements nationaux. J'exposerai trois observations de mes recherches. Premièrement, ces organisations d'opposition des jeunes ont pris naissance dans la diffusion des textes marxistes, l'étude collective des idées marxistes et la réinterprétation du marxisme par les jeunes africains dans leurs propres tribunes. Deuxièmement, ces organisations ont rejeté les théories du socialisme africain proposées par les dirigeants de leur pays et ont ouvert des débats publics sur l'application du marxisme en Afrique. Troisièmement, alors que les dirigeantes d'organisations étudiants et de la jeunesse ont rejeté le socialisme africain, ils ont refusé en même temps de s'identifier comme communistes. À l'heure de l'indépendance, les critiques du capitalisme étaient déjà au cœur de la politique anticoloniale en Afrique francophone. Martin Mbari, un élève congolais en 1960, m'a raconté que ses camarades de classe ont très tôt assimilé l'idée que, je cite, « le capitalisme a été à l'origine de l'exploitation coloniale, donc le capitalisme ne peut pas nous libérer ». Ces critiques anticapitalistes se sont enracinés après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les partis communistes et socialistes français sont devenus des acteurs majeurs dans la politique française et que, concomitamment, les nouveaux partis politiques, les organisations de la jeunesse et les syndicats se sont développés en Afrique française. De nombreux futurs dirigeants politiques africains ont formé des alliances avec des militantes d'orientation marxiste. Cependant, avec l'intensification de la guerre froide, les militantes communistes ont été marginalisées et de nombreux jeunes dirigeants africains ont donc limité leur rapport avec eux. Mais certains étudiants et jeunes syndicalistes africains ont refusé de renoncer leurs alliances avec les communistes. C'est ce courant marginal qui, à la fin des années 50, est devenu le plus fervent défenseur de l'indépendance immédiate vis-à-vis de la France. Pendant les années 50 et début des années 60, la principale destination des étudiants sénégalais et congolais restait les universités françaises, où la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France a fait la promotion de la littérature marxiste auprès des étudiants. Ancien étudiant sénégalais, Amédi Ali Djeng, raconte dans ses mémoires que la plupart des étudiants africains ont critiqué le Parti communiste français et ses intellectuels, tout en s'appuyant sur les revues de la littérature du PCF pour développer leurs propres idées politiques. Grâce à leurs relations avec les réseaux communistes, des étudiants africains en France ont obtenu des bourses pour faire des études en Europe de l'Est et en Union soviétique. Par exemple, Majmoud Diop, étudiant sénégalais qui a passé 3 ans en Roumanie dans les années 50, où il a appris le roumain en lisant les écrivains marxistes et soviétiques. À son retour au Sénégal, Diop a dirigé le Parti africain de l'indépendance, le PAI. Le PAI a été interdit au Sénégal en 1960, compte tenu de ses liens avec les réseaux communistes et son opposition déclarée au nouveau gouvernement sénégalais. Mais même dans la clandestinité, le PAI et sa section étudiants autonomes sont restés dans des lieux de diffusion majeure auprès des jeunes de la littérature marxiste dans les années 60, surtout dans la toute nouvelle université de Dakar. Mais au début des années 60, les textes marxistes disponibles en Europe restaient difficiles à acquérir à Dakar ou Brazzaville. Dans le contexte de la guerre froide, les jeunes radicaux ont fait face à la répression des autorités françaises, sénégalaises et congolaises qui les ont accusés d'être des agents communistes infiltrés. Donc, lorsque les étudiants revenaient de l'étranger pendant les vacances scolaires, ils rapportaient souvent secrètement de la littérature marxiste. Ils collaient, par exemple, des pages de textes marxistes sur des pages des livres qui semblaient inoffensifs. Au début des années 60, de courtes compilations rognotypées d'extraits de Marx, Lénine, Staline ou Mao ont été les textes les plus diffusés au sein des organisations des jeunes et des étudiants au Congo et au Sénégal. Les partis communistes à l'étranger les ont distribués gratuitement ou à bas coût auprès des étudiants africains. Ces extraits sont ensuite parus dans les journaux d'étudiants et de jeunes à Dakar et à Brazzaville. Les jeunes se sont beaucoup inspirés du manifeste du Parti communiste et des théories de Lénine sur l'impérialisme. De ces textes, ils ont conclu que tant que la concurrence capitaliste existait à l'échelle mondiale, les pays les plus faibles seraient la proie des capitalistes et des armées des nations plus fortes. Pour contrer cette inégalité, les jeunes radicaux ont adopté la théorie des deux étapes de Staline, qui a été reprise par Mao comme la théorie de nouvelle démocratie. Selon ces théories, cette inégalité ne pourrait prendre fin qu'avec l'intervention du gouvernement visant à briser la domination économique des étrangers et à faciliter l'accumulation du capital avec la coopération d'une bourgeoisie nationaliste. Seulement après cette période de démocratie nationale, le socialisme serait possible. Au Sénégal, les jeunes radicaux traduisirent ces théories en revendication pour le respect des droits démocratiques face à la répression gouvernementale, tout en critiquant la mainmise de certains patrons européens sur l'économie et l'influence prédominante des Français sur la gestion de l'Université de Dakar. À l'université, les étudiants ont critiqué le gouvernement dans d'innombrables tracts qu'ils imprimaient clandestinement avec leur propre ronéotype et dans leur tentative d'établir les liens avec les travailleurs syndiqués, les étudiants ont organisé des cours au siège de la Fédération nationale des syndicats. Ces cours ont abordé des concepts marxistes comme le capital, la force de travail, la plus-value, ainsi que l'histoire du mouvement ouvrier. Dans le même temps, les militantes du PAI ont traduit le manifeste du Parti communiste en Wolof et ont interprété les concepts marxistes en Wolof, Poulard, Diola et Mandinka. Au Congo, en 1963, un soulèvement à Brazzaville a renversé le gouvernement. Les jeunes militants ont perçu comme le début d'une révolution. Ils ont exigé un programme national de développement économique comprenant la nationalisation des écoles et des entreprises de distribution de l'eau et d'électricité. Ils ont popularisé et mis en débat leurs idées à travers trois nouvelles tribunes, un journal indépendant d'Ipanda, des émissions de radio et des meetings d'éducation politique hebdomadaires. Comme les écrivains et les intervenants dans ces nouveaux tribunes, de nombreux jeunes militantes congolais et sénégalais au Sénégal sont passés de lecture de théories marxistes étrangères à des interprètes et des théoriciens du marxisme local. Dans les deux pays, ils ont opposé leur interprétation du marxisme aux doctrines du socialisme africain portées par les chefs d'État. Après la Seconde Guerre mondiale, Senghor a développé sa théorie du socialisme africain, affirmant que les aspirations marxistes de libération des opprimés pourraient se réaliser au sein de la collectivité rurale et des pratiques du christianisme et de l'islam africain. De même, après la révolution de 1963, le nouveau gouvernement du Congo était dirigé par Alphonse Massamba Déba. Ce dernier a développé une variante du socialisme africain qu'il a appelé la philosophie bantoue. Au Sénégal, les étudiants ont rejeté le socialisme africain du Sénégal, qu'ils estiment dans un tract ni socialiste ni africain. Mais dans les deux pays, les jeunes militantes ont critiqué plus les actions de leur présidente. Ils ne sont rarement intéressés à leur philosophie. Excuse-moi. En général, ils ne se sont pas beaucoup occupés pendant les années 60 des intellectuels africains influencés par le marxisme. Par conséquent, alors que des membres du PAI ont passé deux semaines en 1964 à étudier les ouvrages d'une économiste soviétique, très peu d'entre eux ont lu les textes de Kwame Nkrumah, Frantz Fanon, Samir Amin et même Senghor, pas avant de plusieurs années plus tard. Leur aversion pour les théories du socialisme africain découle aussi de l'idée stalinienne que la voie du socialisme est universelle et que le développement économique social peut être reproduit dans le monde entier par l'application des règles scientifiques. Dans ce contexte, les versions raciales ou ethniques du socialisme, comme le socialisme africain ou la philosophie bantoue, ont suscité du scepticisme. Cependant, alors que les jeunes militants ont défendu leur droit d'association avec les réseaux communistes, ils les ont dans le même temps rejetés du fait qu'ils étaient étiquetés communistes. Dans le contexte de la guerre froide, les jeunes radicaux craignent que ce terme puisse les éloigner de la population. Mais plus important encore, ils ont cru qu'ils n'étaient pas encore passés par l'étape nécessaire de la démocratie nationale. Par exemple, les rédacteurs de Dipanda ont souvent, le journal, ont souvent cité Mao, ont célébré la révolution culturelle et l'anniversaire de Lénine. Ils ont fait des hommages à Che Guevara, Kim Il-sung et Ho Chi Minh, mais ils ont toujours démenti le fait de promouvoir le communisme. Ils ont rappelé fréquemment leur neutralité dans des articles comme celui intitulé « Ni pro-chinois, ni pro-soviétique, ni pro-français, mais congolais ». Mais au milieu de la décennie, les jeunes intellectuels ont exploré une grande diversité des perspectives marxistes, y compris le trotskisme et les textes du Black Power, originaires des États-Unis. Certains se sont tournés vers des stratégies de guérilla. En 1968, les organisations de jeunesse et d'étudiants sont devenues les catalyseurs de bouleversements au Sénégal et au Congo. Une série de grèves d'étudiants et de travailleurs entre 1968 et 1972 a déstabilisé le régime du Senghor. De même au Congo, la croissance des milices de jeunes radicaux a finalement conduit à la chute de Massamba Déba. Les soulèvements à l'étranger, de Paris à Prague, ont intensifié les débats entre les jeunes radicaux au Congo et au Sénégal à propos des stratégies à mettre en place pour renverser le capitalisme. Une nouvelle génération était née, mais je vais terminer ici, parce que ça, c'est notre communication, je pense. Merci.
Étudier sereinement l'histoire du Rwanda n'est pas chose aisée, surtout après le génocide de 1994. Il est en effet très difficile de travailler sur le Rwanda colonial tardif et le Rwanda indépendant sans avoir à l'esprit l'horreur absolue qui a clôturé leur séquence historique, et a fortiori quand on se concentre sur la révolution de 1959 et la République de Kayibanda. En effet, on peut certes affirmer, sans crainte de se tromper, que 94 est contenu dans 59. Néanmoins, soutenir que 59 devait nécessairement engendrer 94 équivaut à céder au déterminisme et à nier ce qui fait la richesse et l'intérêt véritable de l'histoire. Chacun d'entre nous le sait, l'histoire est en effet complexe et paradoxale, et c'est pourquoi l'approche doit idéalement en être globale et non parcellaire, systémique et non causale. L'histoire est aussi la recherche des possibles avortés et des opportunités ratées, dont les détails, mais je ne parle pas ici des anecdotes, conservent quelquefois la trace. Et pour appréhender au mieux la complexité paradoxale de l'histoire, il faut donc attacher une grande importance aux détails qui foisonnent dans les sources. Il faut aussi aborder les problématiques sans a priori ni tabou, quelles qu'elles soient et quel que soit le sujet abordé. C'est aussi la raison pour laquelle il importe. Ce serait une erreur, de réduire la révolution de 59 et le régime de Kayibanda à leur seule dimension racialiste, raciste et ethnicisante, si évidente et si condamnable soit-elle. Se priver de les étudier sur leurs autres aspects serait prendre le risque de passer à côté d'informations tout à fait instructives, voire même tout à fait actuelles. Compte tenu du tour passionnel que peut aisément prendre aujourd'hui encore une discussion sur le Rwanda, et aussi des propos qui ont pu être tenus dans les médias en relation avec les événements tragiques que nous avons vécus ces dernières semaines, je crois utile de rappeler, même si je suis certain de m'adresser ici à des convaincus, que comprendre ne signifie en rien excuser, encore moins soutenir ou épouser. Venons-en maintenant à l'objet même de la communication. En 59, Kayibanda passa une alliance avec les Bakonde, les grands propriétaires fonciers dits Hutus du nord et du nord-ouest du Rwanda. Cette alliance transforma en révolution racialo-ethnique ce qui aurait effectivement pu être une révolution sociale, dès lors que l'on comptait initialement de nombreux Tutsis pauvres, et je mets Tutsis entre guillemets, comme d'ailleurs je mets Hutu entre guillemets, donc comptaient initialement de nombreux Tutsis pauvres ou en voie de déclassement socio-économique parmi les cadres locaux et les électeurs du Parmé Hutu, le parti de Kayibanda. Notons au passage que ceux qu'on appelait les petits Tutsis furent les dupes de la révolution de 59. L'alliance avec les Bakonde et l'appui des Belges permirent à Kayibanda de renverser la monarchie et de prendre le pouvoir. Au-delà, Kayibanda entendait établir un régime qu'il qualifie de socialiste démocratique et qui n'est pas sans faire penser au socialisme spiritualiste dont le catholique sénégalais Léopold Sédar Senghor s'est fait le chantre en faisant la synthèse entre Marx et Teilhard de Chardin. D'après Senghor, je le cite, « Teilhard complète Marx plus qu'il ne le contredit, il complète son néo-humanisme. » Et aussi, c'est toujours Senghor qui parle, « Teilhard m'a rendu la foi tout en me permettant d'être un socialiste africain, un socialiste croyant. » Kayibanda était lui aussi catholique, lecteur de Marx et de Teilhard. De plus, ces deux leaders catholiques africains vouaient une même admiration au père dominicain Louis-Joseph Lebret. Nommé expert économique de l'Église par Pie XII en 1955, Lebret fut le chef de la délégation du Saint-Siège à la Conférence des Nations Unies sur l'application des sciences et des techniques de développement en 1962, et il fut encore le porte-parole du Saint-Siège à la première CNUSET en 1964. Expert au Concile de Vatican II, Lebret contribua à la constitution pastorale Gaudium et Spes avant de rédiger la lettre encyclique Populorum Progressio de Paul VI sur le développement des peuples. Jean-Paul II a vu en Lebret, je cite, « le pionnier du développement intégral et solidaire ». Et, Jean-Paul II ajoute, « Lebret veillait à ne jamais séparer les problèmes économiques des exigences humaines de la civilisation ». Fin de citation. Au début des années 60, Lebret inspira un courant catholique de gauche brésilien dont l'action a préfiguré la théologie de la libération. Lebret a travaillé au Dahomey et au Vietnam. Il a aussi été le conseiller du président libanais Fouad Chehab. À Dakar, il a conseillé Mamadou Dia, puis Senghor, et rédigea le premier plan quadriennal du pays. À l'annonce de son décès en juillet 66, Senghor se revendiqua de son amitié et de leur proximité de pensée, disant notamment « Il a été notre maître à penser en matière économique ». Lors d'un colloque organisé à Dakar en décembre 62 sur les politiques de développement et des diverses voies africaines vers le socialisme, c'est le titre du colloque, Lebret a défini le développement comme, j'ouvre les guillemets et accrochez-vous, la phrase n'est pas simple, les séries, donc, il a défini le développement comme les séries de passages pour une population déterminée et pour tous les groupes de population qui la composent, d'une phase moins humaine à une phase plus humaine, au rythme le plus rapide possible, au coût le moins élevé possible, compte tenu de la solidarité entre toutes les fractions de la population et, au plan plus élargi, entre toutes les populations. Fin de citation. Pour le dominicain, il fallait notamment, je cite, « augmenter le niveau de vie de toute la population et particulièrement de la population la moins favorisée, tout en sauvegardant les valeurs traditionnelles antécédentes qui sont authentiques. » Donc, en clair, le développement pour tout le monde, au rythme le plus rapide possible, mais avec le moins de casse sociale possible, en sachant qu'il faut développer et aider prioritairement les classes les plus défavorisées. En résumé, c'est l'idée. Invité par Kayibanda à présenter le premier plan quinquennal rwandais, Lebret ne put honorer la demande. Surchargé par ses multiples engagements, vous avez pu le constater déjà, et affaibli par la maladie, il n'effectua qu'une unique visite au Rwanda en septembre 64. Tout comme Senghor, Kayibanda se déclarait favorable à un parti de masse majoritaire ou dominant, plutôt qu'à un parti unique, qu'il qualifiait de dictatorial. Le fait qu'à dater de 65, le Parmehutu devient de facto un parti unique, voire même un parti État, après avoir éliminé ses concurrents et fait taire les opposants d'une façon ou d'une autre, suggère que les propos du président rwandais étaient pour le moins insincères. Or, Senghor cultiva la même ambiguïté sur le sujet. Lui aussi récusait le parti unique et prônait la formule du parti dominant, qui, à l'en croire, évitait la violence, faisait appel au sentiment national et cadrait mieux avec les principes démocratiques. Senghor voyait dans le parti dominant un parti des masses, c'est-à-dire une organisation politique de la nation en devenir, je le cite, pour sa construction, de la nation par la socialisation des populations. De même, Senghor affirmait suivre la voie moyenne du socialisme démocratique, c'est-à-dire un socialisme humaniste qui restituait à l'homme tous ses attributs fondamentaux, dont le plus important était la liberté, précise Senghor. Et Kayibanda, pareillement, évoquait la troisième voie, cette fameuse troisième voie, entre, d'une part, le capitalisme qui, je le cite, donnait aux propriétaires de capitaux l'occasion de s'enrichir aux dépens des masses ouvrières, entre donc d'une part le capitalisme, d'autre part l'embrigadement collectiviste d'un socialisme dictatorial tel qu'il est pratiqué dans certains pays d'Europe. Fin de citation à nouveau. D'après Kayibanda, la troisième voie était celle dans laquelle, je cite, « l'individu, le groupe social et l'État ont chacun cette liberté réelle de gagner, de posséder, de produire, d'importer, de s'équiper convenablement pour un mieux-être et dans laquelle, troisième voie, tout l'ordre économique est structuré de manière à garantir à tous, sous l'égide de l'État, cette liberté et d'en promouvoir l'exercice. » La troisième voie est cette organisation est construite sur l'homme et pour l'homme. Malgré ces multiples convergences, le socialisme spiritualiste de Kayibanda ne peut être confondu avec celui de Senghor. Senghor, un ancien de la SFIO, qui a rejoint l'Internationale socialiste en 1976, tandis que son parti, l'Union démocratique sénégalaise, changeait de nom et devenait le Parti socialiste. Rien de tel avec Kayibanda et le Parmé Hutu. Kayibanda était lui-même disciple de l'abbé Joseph Cardaine, le père de la jeunesse ouvrière chrétienne. Et Kayibanda a été appuyé à partir de 1958, donc très tardivement, par des organisations sociales chrétiennes belges, telles le Mouvement ouvrier chrétien, le MOC ou MOC, et la Confédération des syndicats chrétiens, la CSC. Mouvement sociaux chrétiens, dont les cadres avaient été formés à l'école de l'abbé Cardaine et du Jossisme. Et malgré leur conscience de sa dimension ethnique, d'aucuns parmi ces cadres mossistes, c'est-à-dire du MOC, donc parmi ces chrétiens, ces catholiques progressistes, malgré donc leur conscience de la dimension ethnique et du projet de Kayibanda, certains ont vu dans ce projet une incarnation locale de la révolution sociale à laquelle eux-mêmes aspiraient, c'est-à-dire une révolution sociale à l'échelle du monde, menée par, je cite, « des centaines de millions de pauvres de tous les continents entre un capitalisme moribond et un communisme insuffisant ». Pour les mossistes, donc pour les militants du MOC, et pour les démocrates chrétiens qui le soutenaient, le Rwanda de Kayibanda était l'unique avatar démocratique chrétien africain de la troisième voie prônée par le catholicisme social. L'action africaine de ces mossistes, démocrates chrétiens et autres catholiques progressistes belges, qui, au passage, signalons-le, refusaient d'être assimilés aux chrétiens progressistes, aux chrétiens progressistes français, car eux non plus ne voulaient pas être taxés de communisme ou de sympathie communiste. Donc l'action africaine de ces militants s'inscrivait en effet dans le cadre défini par la doctrine sociale de l'Église et par Pie XII, qu'il qualifiait de pape de la paix et de la justice sociale. Message qui était distribué au travers de plusieurs encycliques, Evangelii Praecones, Fidei Donum, et de messages radiodiffusés au monde dans le double but de dissocier l'Église catholique romaine des empires coloniaux moribonds et de former rapidement des élites catholiques locales capables de prendre les rênes de leur pays bientôt indépendant afin de couper l'herbe sous le pied du communisme en Afrique. On y revient toujours. Les turiféraires catholiques de la Révolution rwandaise ont même pu lui trouver une justification a posteriori dans une lecture superficielle de l'encyclique Populorum Progressio, le Bray, et de la théologie de libération, de la théologie de la Révolution du père Joseph Comblain, un théologien de la libération belge qui travaillait au Brésil et qui a dédicacé à Noël-Bert Camara un ouvrage paru en 1970 dans lequel il évoquait la révolution des nations prolétaires. Pour les tenants de la révolution sociale chrétienne à l'échelle planétaire, La Toussaint rwandaise avait une portée providentielle et universelle. Elle s'inscrivait dans le plan de Dieu et dans l'avenir du monde. Et ce plan divin se laissait appréhender au travers des paroles prophétiques et se laissait confirmer par les signes des temps. Ainsi, s'esquissait une théologie qui justifiait aussi bien le mandement de carême de Mgr Perraudin dans son interprétation la plus radicale que la révolution de 59. Et cette théologie obligeait ainsi tous les catholiques rwandais à accepter cette dernière et à contribuer à son succès, quoi qu'ils pensent de la révolution de 59, disons-le au passage. Alors, il serait évidemment vain de prétendre épuiser le sujet en quelques minutes. En fait, nous en sommes qu'aux hypothèses. Au-delà, je voudrais tout de même dire, pour conclure, que cette étude sur le dévoiement ethnique d'un combat contre les inégalités peut s'avérer riche d'enseignements pour les temps que nous vivons aujourd'hui sous nos latitudes, où, également dans un contexte de disette budgétaire, de réformes structurelles et d'inégalités croissantes qui ne sont pas sans rappeler celui qu'a vécu le Rwanda dans les années 50 et 60, les vertus, entre guillemets, performatives des revendications identitaires et communautaristes érodent la cohésion sociale, le socle des valeurs communes et la solidarité nécessaire à la démocratie et à la citoyenneté, avec les risques que cela peut comporter. Et quelques semaines après des attentats qui ont endeuillé Paris et Bruxelles et les accusations qui ont pris pour cible la commune bruxelloise de Molenbeek, c'est un chercheur belge qui le dit.
Merci. Merci, Léon. La dernière intervention, c'est de classe.
Okay, thank you. I'm going to speak in English because I can express myself better in that language. I'm going to speak about Sawaba, which was the heart of the nationalist movement in Niger in the 1950s. More than any other political formation, Sawaba represented not just a political machine or political party. It had grown out of a genuine social movement made up of different social strata, in which so-called petit peuple, little folk, formed its core. You have to think there of artisans, low-skilled workers, petty traders, who had all flocked to Niger's emergent urban agglomerations, but who retained links with the countryside. Besides petty employees and more sophisticated workers as mechanics, postal clerks, and lower-placed administrative cadres, all those just below the echelon of the so-called évolués. And most of these people were so-called talakawa, commoners, those of low rank who had an interest in upward social mobility and who constituted Niger's quintessential social climbers. Now, although Sawaba managed to attract a wide following also in the rural areas, its base in these petit peuple meant that the movement was informed by the urban universe and as a consequence by the emergent world of trade unions and its international linkages. The movement's program was part of that amalgam of passions we know under the rubric of African nationalism, which agitated against the abuses and racial inequalities of colonialism and for greater self-determination, in whatever way this was imagined then, equal rights and equal treatment, autonomy, Pan-Africanism, and late in the 1950s, outright independence, that magical word that was expected to bring the good life to many, although it was far from clear how. Short of this nationalist dimension, Sawaba's program stood for vaguely defined societal change that should be affected by the suppression of unjust taxes, agrarian reform, an end to chiefly exploitation, and the defense of petty trader interests in the face of big French trading firms. Now, this socio-economic dimension was prevalent because the movement grew out of the activism of small trade unions that focused on the concept of exploitation and which put themselves on the map through strike action. Ideologically, they were assisted and influenced by the work of French communists, but also beyond France through the Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique, which was linked to the communist-dominated World Federation of Trade Unions. And these practical, non-formalized linkages entailed invitation to conferences in France or to youth festivals in Eastern Europe, and the provision of courses on union work. Souaba's leader, Djibo Bakary, had therefore refused to forego these links, but this did not make him into a communist. It's true he gave pride of place to the Talaka as the man of the people, but he stood for an ideology that would transcend the contradictions of Nigerian society more or less on the lines of the concept of African socialism. So in other words, he articulated an impassioned nationalist discourse with Marxist-inspired undertones. And in the Cold War crudity of France's Gaullist establishment, this was enough to reduce someone to being dubbed a communist. But Bakary's views did not say everything, of course, about Souaba as a movement in an ideological sense. Individual activists and union agitators as representatives of the petit peuple saw themselves as the vanguard of the Talakawa. They were in the forefront of the battle for social justice, as conceived by them, the forefront of the struggle for personal and collective advance, and they were in the forefront of canvassing and street agitation. And in such street action, physical violence was never far away, and it could be legitimated alternatively by Marxism's revolutionary doctrines or by the specificity of Niger's own political culture, in which canvassing in someone else's fief amounted to trespass and which would immediately trigger a violent reaction. And yes, there were numerous cadres who were convinced Marxists, but there were others too who, in their revolutionary self-conception, mixed socialist convictions, for example, with strong Sufi beliefs and producing unique blends of personal ideological outlooks. Now, when the Souaba movement was evicted from power in 1958 by the Gaullists, it entered its clandestine phase, and this was to open the way to various ideological influences. The movement's strategy to win back power was two-pronged, first by way of guerrilla infiltrations, and second by nurturing educated cadres with which to take over the administration once the French-backed regime had been toppled. And the latter part entailed the dispatch of youngsters to Eastern Europe, where they enrolled in union or political coursework in such organizations such as Komsomol, or where they entered vocational training in East Germany or higher education, the university in the Soviet Union. And if political coursework involved the ins and outs of union work, political agitation and infiltration tactics, in all institutions, including the academic ones, lessons in Marxist-Leninist doctrine were standard part of the curriculum. And as a consequence, many Souaba cadres, to a greater or lesser extent, became then impregnated with this particular strand of Marxist ideology. With the struggle of Souaba against the French-backed RDA regime inexorably developing towards its military climax, the socialist convictions or rhetoric of Souabists became increasingly marked by the practicalities of armed struggle. And as a consequence, the official ideologies of countries where the movement's cadres obtained military training began to affect and alter the discursive imaginations of Souaba's men. Algeria, Ghana, communist China, North Vietnam, and to a lesser extent Cuba played their roles in this respect. The nationalism and state nationalism of Algeria's FLN, for example, found ready reception among the movement's cadres, imbued as Algerian convictions were with anti-imperialist rhetoric and disparaging statements on neo-colonialism. Souaba legitimized the military struggle against the Nigerian regime by way of the central tenet of effective independence, which Niger was not supposed to enjoy as the RDA regime depended on Gaullist protection. Most guerrillas were trained, however, in Ghanaian training camps, where they were exposed to Nkrumah's notions of guerrilla warfare. These were in themselves inspired by the experiences of communist China, and there were Chinese instructors working in Ghanaian camps. So Chinese ideas on socialism and struggle were seemingly of some importance in the evolving worldviews of the movement's cadres. The first visit by a Savabist to the People's Republic of China already took place in 1954, and by the end of the decade, a steady stream of men made their way to the Far East. And if it was only a minority of men who went to China once there, they were exposed in different ways to Maoist doctrine, not just through paramilitary and military training, but also in some cases by working as announcers in the employ of Radio Peking's Hausa service. If physical training in China was less important than in Algeria and North Vietnam, the ideological underpinnings were so much the more important. And these centered around Mao's ideas on the socialist revolution as an armed struggle, the pivotal role of the peasantry, that inexhaustible reservoir of revolutionary energies, and the concept of a people's war which would render any atom bomb into a paper tiger. Savabists were later mocked for this Maoist inspiration, both by the French and the RDA regime alike. Incidentally, they were also trained in North Vietnam, where they were shown around the battlefield of Dien Bien Phu to underscore the fact that the French were not invincible after all. The Savabists were later mocked for this Maoist training. It was pointed out that Maoist doctrines were wholly inappropriate to the Nigerian context, and it was suggested that the movement's cadres had been naive and credulous. But it is quite clear that Savabists interpreted these prescriptions against the background of their own experiences. And the importance of the peasantry, for example, was not hard to take in for semi-urbanized cadres who were still in touch with their rural families. Nor was that of the centrality of armed struggle after Swaba had been evicted from Niger's National Assembly and its party vehicle formally proscribed. Feudalism reminded them of the Sarakuna, the hated grand chiefs of Hausa land. Imperialism pointed to the French, and in the context of Niger's First Republic, concepts such as oppression sounded far from hollow. The proletariat, as the most disciplined class, alluded to the self-conception of the petit peuple as the vanguard of the Talakawa. And for members of a proscribed movement, even outlandish notions such as the Chinese view on Soviet revisionism, meaning that it was a mistake to argue that oppressed peoples should pursue their liberation through parliamentary politics, even such notions carried a forceful logic. Well, in similar manner, though in more ephemeral ways, did the Cuban example exercise its influence. Few cadres were dispatched to the Caribbean, but the fall of Batista was still fresh in people's memory, coming as it did during the very autumn of Suaba's fall. Some Savabists, for example, took Fidel Castro as their alias. Several in the early 1960s met personally with Che Guevara in Algeria and carried his writings with them. And many were prepared in the fateful years of their invasion in 1964-65 to engage the regime in Niamey on foot, in part because, and I quote, this was the way it had been done in Cuba too. But those defeated on the battlefield of Niger were not hardened Caribbean fighters. The Savabists who invaded the country in the mid-1960s, both in their mindset, their experiences, and their military action formed a curious blend of political street activists and guerrilla combatants. Rather than coercing the populace, they literally walked into battle as the street agitators of old. Yes, they were armed, but they were still hoping to please their electorate and lead it in the march on their Havana and force an instant end to suffering. And the immediacy of this strategy fitted well into a quasi-millenarian mindset that had always marked Sawaba's nationalism and indeed African nationalism more generally. There's no time to give examples of this here, but if Sawabists were therefore in the end less Maoist in inspiration than initially suggested, another more general feature should be pointed out by way of a conclusion. The very nature of Marxist ideology and the discursive offshoots taken in by Sawabists, Leninism, Maoism, the prescriptions of the FLN, the writings of Che and the advice of Uncle Ho, they all harbored one specific element that made them particularly appealing to Niger's petit peuple. As pointed out by Forrest Colburn in his book The Vogue of Revolutions in Poor Countries, these dogmas shared a romantic narrative, all of them, that a narrative that argued the wisdom of a Herculean transformation of society through a world-shattering struggle to destroy the old order. And in doing so, they provided little precise guidance as how to effect the rupture with the past or establish the governance of the future. In other words, a romanticized conception of revolutionary change that fitted well in the millenarian mindset of Sawabists and African nationalists generally. Had the painstaking way in which the movement's guerrillas worked on their, for example, on their notebooks during training in China, copying out the lessons of the great helmsman, or reporting on the representatives of feudalism in their Nigerian region, bears at least a suggestion of confidence in alien formulas that could work miracles. And indeed, more widely, I think one could argue that this was also true for the history of socialists in European history, as any glance at the history of revolutionary activism in 19th century Russia would tell you. So socialism not in the role of ideology, but more as a manifestation of mystical inspiration. Thank you.
Merci à tout le monde pour les bons exemples de la discipline socialiste. On a suivi les règles de la réglementation du temps. Je passe la parole à Marthe pour quelques mots pour lancer le débat.
Bonjour. Donc, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'Afrique, mais plutôt de l'Union soviétique. Donc, ce qui m'a frappé aujourd'hui en écoutant les personnes qui sont ici, c'est vraiment cette capacité, cette vivacité, on peut dire ça en français, on dit richesse, vivacité, de la capacité critique et interprétative des différents acteurs politiques et non en Afrique. Je pense par exemple aux étudiants sénégalais dont vous avez parlé, qui s'interrogent, qui cherchent, qui débattent, qui se posent plein de questions. Alors, par rapport à ce que nous, on est habitués de cette chape de plomb des années 60-70 en Union soviétique, avec un dogme très fort et où on peut s'interroger très peu, c'est très frappant. Tous les trois papiers montrent, et justement, pendant que je pensais ça, vous avez conclu en cette idée plus source d'inspiration que idéologie. Et donc ça, je crois vraiment que des trois papiers, ça ressort. Et pour quelqu'un habitué à ce climat de l'Union soviétique, je suis plutôt spécialiste des années staliniennes, donc c'est encore plus sharp et vraiment manque de dialogue, de pouvoir réfléchir et penser et s'interroger librement, mais même dans les années 60 et 70, on connaît peu cette quelque part aussi liberté de parole, de s'exprimer, de risquer, et ça fait aussi beaucoup réfléchir quand vous, cet imbriquement de figures quand vous parlez de Staline, Lénine, Mao et Che Guevara, ça fait quand même réfléchir à des choses qui sont impossibles dans l'univers que je connais mieux. Mais puisque, juste une question qui ouvre, puisque ça s'appelle Doctrine et Corpus, et je m'interroge aussi sur quelles sont les sources aujourd'hui accessibles pour vous qui travaillez sur ces thématiques. Je pense à toutes les guerres qu'il y a eu dans ces pays, les conflits, les mouvements de population. Voilà. Comment vont les archives? Est-ce qu'ils sont accessibles vu que c'est des années quand même plus proches aux nôtres? Voilà. En général, comment on travaille dans les archives en Afrique? Est-ce qu'ils se portent bien? Voilà. Merci.
Je vais me limiter à quelques mots. C'est seulement le premier panel de ce colloque, mais on a déjà vu la variété de socialisme qui était en jeu, variété de marxisme, il y avait, et aussi de socialisme chrétien démocratique. Et on voit l'exploration à travers le monde, la recherche des idées. Mais la question que je veux poser à tous les intervenants est l'implication, et est-ce que tout le monde était universaliste dans sa propre façon? C'est-à-dire que d'un point de vue global, il y a beaucoup d'idées, mais est-ce que chacun avait une idée exclusive de ce qu'il fallait faire? Klaus a parlé de « world-shattering struggle »,« alien frameworks » that could work miracles across the world. Et Léon a parlé d'une révolution à l'échelle du monde. Alors, il y a chacun avec des idées différentes, mais chacun avec une idée d'une transformation qui englobe tout. Et quelles sont les implications de ce genre de universalisme. Voilà, je veux ouvrir la parole à la salle.
On collecte quelques questions.
Oui, oui.
Ça marche? Oui. Voilà, donc est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots, et puis progressivement on connaîtra tout le monde, et on va prendre, avant de donner votre question, poser des questions assez courtes, et on va en prendre plusieurs, comme ça vous ferez très bien.
Ingolf Diener, anthropologue à la retraite, Université de Paris 8. Une question à tous les intervenants. Dans vos présentations, des idées, des pratiques, des forces œuvrant pour le socialisme en Afrique, personne d'entre vous n'a mentionné une réflexion, quels que soient les mouvements, sur les structures de pouvoir, disons, précoloniales dans les différents coins de l'Afrique. Est-ce que tous ces mouvements avaient tout simplement ignoré cette force qui est quand même le fond de tout cela, ou est-ce que c'était rejeté dans des formations sociales dépassées par l'histoire et que de ce fait on n'avait pas besoin d'y penser et éventuellement faire des stratégies? Qu'est-ce qu'on a fait de la chefferie, par exemple, et disons les pouvoirs dits traditionnels précoloniales? Est-ce qu'il y avait une pensée ou non? Et si oui, laquelle?
Je vais remonter progressivement.
Oui, Roland Collin, anthropologue, actuellement Société des africanistes, Paris. Les trois interventions que j'ai entendues ce matin me posent de grosses interrogations sur la prise en compte réelle des contextes. Bien sûr, je sais que doctrine, corpus d'un côté, socialisme en acte de l'autre, c'est commode pour un inventaire systématique. Mais en fait, il y a constamment eu, disons, un renvoi entre la pratique et puis les idées. Et donc, à ce titre-là, par exemple, je ne reconnais très mal la vision du socialisme sénégalais telle qu'elle a été présentée, parce qu'on a fait comme si Senghor était le seul maître d'œuvre et le maître d'œuvre principal. Or, au Sénégal, le maître d'œuvre principal du socialisme, ça a été Mamadou Dia. Et il y a eu une transformation pendant 5 ans des structures qui a passé à travers tous ces événements qui ont été donnés. Donc là, il y a une interpellation. Bon, de même, en ce qui concerne le Rwanda aussi. Bon, j'ai été au Rwanda dans les années 1964, là, et j'ai eu l'occasion d'avoir de grands entretiens avec Kayibanda. Je pense qu'il est tout à fait important de tenir compte aussi de ce que représentait le mouvement des Mwami. Parce que Kayibanda s'est vraiment aussi défini constamment par rapport à cette pression entre ce qu'il représentait lui et ce que représentait le mouvement des Mwami qui voulait récupérer le pouvoir. Enfin, sur le Niger, troisième chose, et derrière, je m'arrête là, Sawaba, bien sûr, mais Sawaba était assez marginal et on ne peut pas parler de Sawaba sans présenter l'évolution du Niger telle que Amani Diori l'a prise en main, parce que c'était constamment, effectivement, dans une sorte de dialectique. Et là, Sawaba s'est marginalisé complètement. Et, alors ça, c'est vrai de dire que Sawaba s'est réfugié dans des doctrines, alors que Diori était à pied d'œuvre. Enfin, moi, j'ai vécu tout ça, donc je vous interroge là-dessus pour vous demander ce que vous en pensez. Voilà.
Merci. Romuald Tshibozo, Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Alors, je voudrais spécialement m'adresser à Matt, parce que votre travail a présenté un peu les structures mentales en place, c'est-à-dire la formation à l'Est et en France. Mais après, je voulais vous demander, par rapport à l'architecture de la pensée, quel impact ça a eu sur la divergence de la gouvernance qu'on a constatée au Congo et au Sénégal? Puisque après, au Congo, c'est devenu vraiment plus dur. Au Sénégal, c'est resté doux.
Scolastique Dianzinga, Université Marien Ngouabi de Brazzaville, historienne. Je voudrais m'adresser à Matt Sweger. Est-ce qu'on ne peut pas voir dans l'appropriation sans discernement des écrits de Mao, de Marx, etc., le point faible de la révolution congolaise qui se réclame du marxisme-léninisme? Et parce que les jeunes dont vous avez parlé, ce sont ces jeunes-là qui vont devenir tout au long de la période révolutionnaire les acteurs politiques. Martin Berry, jusqu'en 90, est encore au gouvernement. Donc, je trouve, à mon avis, que ce serait peut-être un point faible, parce qu'on va prendre des concepts, révolution nationale démocratique et populaire, lutte de la classe ouvrière, etc., qui ne collent pas avec la réalité. On proclame des choses, en fait, qui ont du mal à être prises en compte par la majorité de la population, notamment le peuple dont on se réclame. Tout est pour le peuple, mais en fait, on a du mal à prendre en compte. Mais par contre, peut-être au plan extérieur, ce verbalisme-là va donner l'impression que vraiment le socialisme congolais est un socialisme dur. Les Angolais auront cette image. Et moi, j'ai rencontré Thomas Sankara en 1987. Il n'a pas tari d'admiration pour le régime de Brazzaville. Et moi, je souriais au fond de mon cœur. Je vous remercie.
Je vous repasse la parole et je ferai une autre série de questions après, comme vous voulez.
Peut-être que c'est une bonne idée de répondre aux questions qu'on a déjà eues et ensuite on peut avoir un deuxième round. On commence avec Matt.
Okay. I'll reply in English. My apologies, but I think just given the number of questions, it might be easier for me to reply in English. So apologies for that. But okay, so I guess certainly on the question of, since there are a couple of specific questions I got, I guess I'll respond to those. Around the question of African socialism and the importance of Mamadou Dja, who was the prime minister and for a long time close compatriot of Senghor in the governing party until 1962, when Dja was accused of trying to lead a coup against Senghor and was imprisoned. It's interesting because Dja is really sort of known as the one that was trying to implement a sort of a policy vision of philosophies of African socialism. And there were many young people who were very hopeful about him and were very disappointed about after the accusations of the coup and the sort of dismantling, particularly of the sort of rural cooperatives program that Dja had tried to put into place. At the same time, it's interesting because already in 1959 and in 1960, Dja is drawing a very clear line against a sort of radical opposition to the party. He cracks down very hard on the more radical trade unions in 1959 during the strike in Senegal, and is the one that bans the PAI in 1960. So there's already this sort of break where actually a lot of young people who I was talking about, particularly students involved in the student movement in the University of Dakar and in parties like the PAI and in certain trade unions, are already sort of bristling at the actions of Dja even before independence. And so there's sort of multiple tracks that you could follow of sort of different socialist thinking that's going on at that time. On the question of Congo and the question of what kind of socialism, I do think, like Scholastique was saying, that a lot of the language that was being used for to position themselves internationally. It's true that particularly in the Congo after the revolution, being able to actually maintain relationships, although this was true for people in Senegal too, being able to maintain relationships and the resources that came with that from abroad was incredibly important. It's the way a lot of these autonomous organizations and independent student organizations and things, it's the way they maintained a lot of their activity. At the same time, they're very careful for the most part, to not align specifically with one power over the other. Thus, in the midst of the break between China and the Soviet Union, the Independa in the Congolese youth newspaper, they would run alternating articles about the great things the Soviet Union was doing for the revolution, but also the great things that China was doing for the revolution. And so, I think there was a lot of what was being said was for an audience of potential supporters. But I also think there was this way that people did try to translate this sort of take a sort of universalism and translate it locally. And so, like Klaus was saying, when people talked about the sort of revolutionary vanguard of the working class, it was reinterpreted in different ways locally. Specifically in Congo, there was this idea that the youth were going to be that vanguard, but people would still use the sort of phrases. People would still talk about the proletariat, but in many ways they meant actually themselves, even though they were not themselves proletariat in the definition, in the way that Marx or Lenin and many others had talked about it. And so I think there was a sort of attempting to sort of bend language to attempt to apply to sort of the situation on the ground that they found themselves in.
Merci. Je pense que si je pouvais prendre une heure pour répondre à la question que vous m'avez posée, monsieur, je la prendrais volontiers, mais je crains que le service de police ne m'interdise de le faire. Donc, je vais essayer d'être le plus bref possible et simplement essayer d'ébaucher une réponse. Non, sans avoir préalablement dit que, pour ce qui est du Rwanda en tout cas, les structures de pouvoir précolonial vont être balayées dans le cadre de la révolution de 59, qui, de ce point de vue, est une véritable révolution. Il y a un renversement des élites et, en même temps, un changement complet dans les structures et dans les institutions rwandaises. Donc, de ce côté, il y a véritablement une révolution qui a conscience d'elle-même. Dès le deuxième ou le troisième jour des événements de la Toussaint 59, on parle explicitement de révolution. Donc le terme est utilisé, c'est dans une perspective très faussée de comparaison avec la révolution de 1789 et la sortie de la féodalité, et je laisse aux historiens des temps modernes et de l'époque contemporaine le soin de corriger toutes les erreurs que j'ai dites en quelques mots, mais c'était les erreurs de l'époque de 1959 est comparée à 1789 d'emblée. On renverse la féodalité et on établit la République. Donc, de ce point de vue-là, c'est très clair. Par contre, pour ce qui est de Kayibanda, effectivement, c'est un personnage extraordinairement complexe. C'est un homme d'État, un grand politique, et oserais-je dire, il y a cette part d'ombre, parce qu'il n'y a pas de grand politique sans un côté truand. C'est à sa manière un truand, comme beaucoup de politiques. Et il sait adapter son discours et ses propos à ses interlocuteurs. Donc il y a effectivement différentes facettes chez Kayibanda, et il n'est pas toujours facile de voir ce que l'homme pensait par-devers lui, quelles étaient ses convictions intimes. Ce n'est pas évident. Ce qu'on peut en tout cas retenir, de son évolution dans le pouvoir, c'est que dès 58-59, il est effectivement l'un des leaders rwandais qui ethnicise le plus le débat politique, qui fait du terme « Hutu » un concept politique, une chose qui n'était pas le cas auparavant. Il existait des Tutsis, il existait des Hutus, devrais-je dire. On disait qu'il existait des Tutsis, on disait qu'il existait des Hutus, mais ce n'était pas politisé. Ce n'est que dans les années 50 que les concepts se sont politisés et Kayibanda a joué un rôle important dans cette ethnicisation des concepts. Il a eu la chance, si j'ose dire, de rencontrer un autre truand, à sa manière, aussi un grand politique, même s'il était militaire, c'est le colonel Logiste, un spécialiste de la guerre révolutionnaire, et qui a appliqué au Rwanda un certain nombre de préceptes et de techniques de la guerre révolutionnaire pour renverser la monarchie et pour établir un régime qui avait surtout pour intérêt, dans ses yeux, d'être pro-occidental. Les Belges savaient qu'ils allaient quitter le Rwanda bientôt, seulement ils ne voulaient pas le quitter sans avoir eux-mêmes fixé les règles qui seraient d'application après dans le pays, et l'ambition était clairement d'établir au Rwanda un régime pro-occidental. Kayibanda était catholique et il avait mis au point un système d'occupation du terrain au travers du mouvement social Mutu et du Parmé Hutu qui ressemblait fortement à un quadrillage de terrain. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais manifestement, Kayibanda a été désigné par Logiste comme étant son partenaire idéal pour être en quelque sorte, et je mesure moi-même la caricature de ce que je dis, d'être son archi rwandais. C'est juste pour résumer très grossièrement ma pensée que j'utilise cette comparaison et ce rapprochement. Dans un premier temps, une des premières préoccupations de Kayibanda au-delà de la prise de pouvoir, c'est en fait d'asseoir son pouvoir et de faire du Parmé Hutu le parti dominant, le parti majoritaire. Il s'agit donc pour Kayibanda, dans un premier temps, de réduire l'opposition intérieure. Et il va s'y appliquer en même temps qu'il doit s'opposer à l'opposition extérieure et aux retours offensifs des unaristes ou en tout cas des inyenzi, parce qu'effectivement, il faudrait étudier plus spécialement les relations entre l'unar intérieur, l'unar extérieur, donc les opposants monarchistes qui jouent le jeu de la République rwandaise et du combat politique, les monarchistes exilés, ceux qui veulent rentrer les armes à la main, ceux qui veulent continuer à jouer le jeu politique au travers de l'ONU et des relations internationales. Donc tout ça est très complexe et doit encore être étudié en profondeur. Et ce n'est que après les événements de décembre, janvier, donc décembre 63, janvier 64, on peut considérer d'une certaine façon que l'opposition extérieure armée est éliminée, en tout cas ne représente plus un danger mortel pour le régime, que Kayibanda passe à une étape suivante, puisqu'il a réduit l'opposition intérieure, l'opposition extérieure armée ne représente plus un danger, il commence à ce moment-là à parler d'un socialisme rwandais, d'un socialisme, avec tous les paradoxes qui sont dans les mots, socialisme catholique, socialisme chrétien, qui va effectivement constituer une sorte, et je terminerai là-dessus, une sorte de cousine dévoyée, ou en tout cas de cousinage, avec la théologie de la libération, mais qui apparaît postérieurement en Amérique latine, mais en tout cas le régime de Kayibanda, avec toute cette dimension ethnique, raciale, racialiste, présente en fait une origine commune, il a une origine commune avec la théologie de la libération américaine, sud-américaine, et c'est effectivement ce que Horn a appelé la théologie de la libération ouest-européenne, et que moi personnellement je préfère appeler la proto-théologie de la libération, dont un des représentants est Cardane. Donc cette réponse catholique au monde du capital et au patronat, qui essaye de récupérer la classe ouvrière en Europe dès les années 30, va, après la Deuxième Guerre mondiale, essaimer en Afrique et tenter de récupérer les populations africaines avant que les communistes, le communisme ne mette la main dessus. Il s'agit en fait pour eux d'éviter de répéter l'erreur commise au XIXe siècle lorsque, à force d'avoir tenu un discours inadéquat, l'Église a perdu le monde ouvrier. Et ça, ils ne veulent pas répéter l'erreur avec les populations du tiers-monde. Et Kayibanda, il est d'une certaine façon l'avatar local au Rwanda de cette tentative chrétienne, catholique, de récupérer les poussières des empires coloniaux.
Yes. Well, as far as the question by Mr. Collin is concerned, I would not stress so much that Sawaba was so extremely marginalized. Research shows that by the mid-1960s, there were numerous clandestine cells in Niger still working. Moreover, reports of French intelligence by mid-1962, that is 4 years after the coming to power of the RDA, those reports worry a lot about the fragility of the regime of Hamani Diori, worrying about that it was completely dependent on Gaullist protection and that the regime was extremely anxious and corrupt. And in fact, this is not just one report, but several. And some of these reports, for example, say that if Djibo Bakary would now return home, the regime would collapse immediately, 4 years after what happened in 1958. Indeed, my presentation focused on doctrine. The context came in more in the references to millenarianism or quasi-millenarianism. If you would look at the way that the guerrillas entered the country in the mid-1960s, they literally walked across the frontier, sometimes with donkeys, taking all their possessions, membership lists of domestic cadres, not in code, but just with their names. They were more or less a social movement coming home, rather than being guerrilla infiltrators, replete not just with weaponry, but also with fetishes that could underscore their confidence. And that's quite apart from the fact that the RDA regime that had then managed by instilling sufficient fear in the population that these guerrilla infiltrations would come to naught. If you look at doctrine of Sawaba doctrine, well, of course, there is a difference between what the party leadership produced and what individual cadres would articulate in party pamphlets. There's enough to be found on pre-colonial structures. The Sarakuna, the grand chiefs of House Aland, were really the object of hatred among the petit peuple, these petty traders, and their position would be ideologically reduced to the concept of feudalism. But there was, of course, a distinction between what the party leadership wrote that was that tended to be more refined. It referred to socialist doctrine. It referred to the tenet of effective independence, which they claimed Niger did not have, and indeed it did not have. But of course, individual cadres would put these things more crudely. They would vulgarize the movement's objectives. They would say, well, we want to get rid of the whites. The Corsicans run our country. We don't want them here. And they would argue that, well, one day Djibo Bakary will give the word, and then everything will fall into place. That's that allusion to a quasi-millenarian mindset that many of these people had. And as far as sources are concerned, well, of course, there is a problem that many documents of that movement were destroyed from the mid-1960s onwards. So you depend not only on archives, but also on things in personal collections and, of course, on field work. I've been able to do a lot of field work in the early 2000s. And, well, I met, for example, Amadou Diop, who tried to assassinate Hamani Diori. He was later pardoned, and I would meet him in his house, which was full of Quranic amulets and all kinds of fetishes, quite besides all these party pamphlets and references to Marxist ideology. And it depended certainly on a lot of field work. Unfortunately, most of these people are now slowly dying off, of course. Thank you.
François, let's go with all your calls.
Bonjour, Steffi Marung de l'Université de Leipzig en Allemagne. Je travaille sur l'histoire des études africaines en l'Union soviétique pendant la guerre froide. Je vais poser ma question en anglais quand même, because it's also more, it's easier for me to pose my question in English, I'm sorry. My question goes to both Mats Wegler and Klaas van der Raven. I was fascinated by the varieties of socialist ideologies which were taken in by African radicals and students, and I was wondering in how far they reflected that there have been considerable tensions between Maoism and the Soviet-style Marxist-Leninism, Trotskyism, and all these variations in between, and how far this did play a role, or how this did translate into cleavages among students and activists. My second smaller question goes also to Matt, because you mentioned this in particular, that you observed students studying in the Eastern Bloc. How did it have an effect that they did not study, or not only study in the Soviet Union, but for example in Romania, but also in Czechoslovakia, the GDR, etc., which all had very different positions in the Eastern Bloc and also different interpretations of socialism, particularly Romania, but also Yugoslavia? Did this have an effect on how African radicals then rethought African socialism? Thank you.
Oui, Marc-Antoine de Monclos, IRD. My question is for Klaas van der Raven. I was wondering what's the relationship between the Sawaba and Islam. NEPU, which was supportive of Sawaba, was clearly linked to the Tijaniya in Nigeria. And Aminu Kano, in a way, was advocating a kind of socialist jihad. I know it was not framed this way, but you just mentioned some relationship with the Grigri and so forth. So I had the feeling, it's just a feeling, that analysts tended to dismiss or ignore or neglect the role of Islam during the Cold War as a way to mobilize the youth into social struggles. So, yes, what was the relationship of Sawaba to, say, Sufi orders or Islam more generally, including in terms of discourse on corpus? Thank you.
Merci, Jean-Michel Mabekotali, Howard University, Washington, D.C. Je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que notre collègue a dit au départ. Sur le Congo, je suis congolais d'origine. Ce qui se passe à Brazzaville à ce moment-là, je veux tenir compte du fait que nous avons une révolution, surtout dans les années 60, qui en fait se passe à trois têtes. On a dans le CNR, donc le Conseil national de la Révolution, après 63, il y a deux têtes. Il y a Massamba Déba. C'est bon, ok. Il y a le président Massamba Déba, qui est un homme de compromis, je crois qu'il faut le souligner, parce que ça va jouer par la suite. Il n'était pas dans ce processus révolutionnaire. Il a été coopté par les jeunes révolutionnaires comme un homme de compromis. Massamba Déba est protestant pratiquant. Il ne croit pas au marxisme, mais il comprend que sa survie politique l'oblige à accepter l'idée du socialisme. Mais il met un bémol, socialisme bantou. Nous avons la deuxième tête, l'extrême gauche, on va l'appeler comme ça, qui, elle, parle de socialisme scientifique. Ces deux têtes-là vont essayer d'utiliser la force armée, qui est la milice révolutionnaire, la défense civile, puisque l'armée, bon, les jeunes révolutionnaires disent que l'armée, elle est néocoloniale, donc on ne peut pas compter sur elle. Chacun essaiera d'utiliser la défense civile hein, pour, dans ce rapport de force assez violent entre les deux extrêmes, les deux têtes. Mais dans la deuxième tête, l'extrême gauche, nous avons une extrême gauche guévariste. Il faut souligner cela parce que cela aura des conséquences par la suite, dirigée par Ange Diawara et qui va être décimée en 72 au moment du coup d'État. Bon, la tentative de coup d'État, quoique ils disent que ce n'était pas ça, mais bon, elle est décimée littéralement. La troisième tête, c'est l'UGEC, l'Union Générale des Élèves et Étudiants Congolais, dont j'ai fait partie du dernier comité. L'UGEC, qui a été créée dans le cadre des organisations de masse, va s'arranger pour arracher son indépendance. Donc, la lutte, c'était, mais nous, on veut notre indépendance. Et elle va s'arranger, effectivement, pour l'arracher quelque part. Ça se terminera en prison. Nous avons passé 6 mois en prison, basé chez les Bérets Rouges, parce que, justement, comme conséquence de cette lutte pour arracher notre indépendance. Donc, ces trois têtes-là vont se confronter constamment. Et 72 va être un moment clé, puisque l'extrême gauche guévariste est décimée. C'est un peu la fin, quelque part, de l'extrême gauche au sein de ce qui est maintenant le PCT. Ce n'est plus le CNR, mais le Parti Congolais du Travail. Et l'UGEC. Donc, nous avons la dernière grève. Ce n'est pas vraiment une grève, c'était une revendication qui est posée en pleine rentrée académique. Moi, à l'époque, j'étais en troisième, je passe en seconde. Et l'UGEC qui dit au chef de l'État, vous changez de voiture tout le temps alors que les classes n'ont pas de table banc. Bon, on s'est fait embastiller après ça, on a passé 6 mois chez les Bérets Rouges. C'était la fin de l'UGEC. Donc ça, c'était le drame un peu de cette révolution-là. Ça s'est terminé comme ça. L'UGEC aura un rôle fondamental pour essayer de changer le discours politique. Bon, ça ne réussira pas, mais c'est un peu ce drame de cette révolution-là. Il ne faut pas rater ce côté-là et souligner le rôle de la gauche guévariste.
Merci.
Merci.
Françoise dit non. Donc, Constantin, si tu fais très court.
Merci beaucoup. Comme nous sommes dans le royaume des idées encore, je voudrais juste poser la question. Dans quelle mesure, dans le socialisme africain, elles sont présentes?
Non, mais il fonctionne.
Ah, d'accord, pardon. Oui. Dans les versions socialistes, du socialisme radical surtout, les notions de mobilisation, les idées de mobilisation, de discipline et de sacrifice sont présentes dans le marxisme-léninisme, dans le maoïsme. Je voudrais savoir, dans le royaume des idées, dans les milieux des élites, dans quelle mesure ces idées sont présentes dans le socialisme africain, ou elles sont passées sous silence, parce qu'elles sont nodales dans le socialisme radical. Merci.
Merci. Oui, bien. Une minute chacun.
No problem. Okay. So, I think actually Professor Jean-Marc Otali, en fait, he actually helped answer some of the first question about that I received about sort of tensions between different Cold War tendencies. I think he explained very well how in a lot of ways they played out in Congo. I think they also played out in Senegal. I think what's interesting is that there's actually quite a long period in both countries in the 60s, even though conditions were quite different, where people were reading very widely. And we're considering different strategies very widely from the Marxist tradition, you could say, without necessarily factionalizing around those different tendencies. In fact, like I said, trying to sort of avoid doing so for a long time. I think particularly by the late 60s, that started to change. I think the struggles, the strikes in Senegal and what was happening globally pushed a lot of people pushed a lot of people a lot deeper into a lot of different Marxist tendencies, even towards anarchism for a moment, trying to find something that could sort of break through the impasse that the struggles of, you could say, les années 68 had not been able to do. And I think in that moment, you see a lot more splits. And I think in the Congo, the collapse of the government in 68, that itself was a result of these different tendencies starting to clash. And after 68, like Jean-Marc Tali was saying, you really start to see those divisions. But they're less necessarily ideological, I think, than they are strategic, and they're about different people sort of trying to jockey for power. Because like Scholastique was saying earlier, you know, these sort of young radicals were now actually in a position of power, which was not the same case in Senegal. And so they're really sort of jockeying with each other for the direction of the revolution.
Klaus?
Okay, yes, as far as the tensions are concerned of different Marxist doctrines, well, these tensions did not express themselves so much at the discursive level. On the one hand, there were the so-called Sowaba students in Eastern Europe who took in usually Marxist-Leninist doctrine. On the other hand, there were the guerrillas in training, for example, in China, or the radio workers at Radio Beijing. And some of these latter actually stayed on in China right up to the early 1980s and lived through the Cultural Revolution. And they would walk through the streets of Beijing and wave the Mao's Red Book to defend themselves against intrusive Red Guards. The tension was not in at the discursive level, but in the fact that the students did not participate in the invasions of 1964-65. They came back later in the 1960s. They were also incarcerated, but not for so long. It was the guerrillas who had done the dirty work. And now, in their late age, in the 1990s, there clearly was a lot of tension and frustration between these two different groups in the movement, which had been destroyed. As far as Sawaba and Islam is concerned, well, in practical terms, itinerant marabouts, of course, were also archetypical for the petit peuple who contributed to this movement and who gave practical aid in terms of the intelligence and the network of cells. At a discursive level, it is not so clear, this relationship. One will find in party programs some allusions to Islam, which is the religion and the culture of Niger, but as an ideology, Islam in the 1960s was certainly not as prevalent as it is now in Niger. Sowaba commandos would not only travel with their party pamphlets, but would also take Quranic amulets or other kind of fetishes with them to protect them. And this was not seen as contradictory. But of course, Islam, for the entire context, is of some importance. And I will end here with one note on what happened in 1958, when the Fifth Republic was under construction in France, and when African electorates had to express themselves in a referendum on the new constitution, which had to legitimize the coup d'état. The creeping coup d'etat of Charles de Gaulle in the spring of 1958. What deeply irritated African politicians at the time, not just in Niger, was that they had to submit lock, stock and barrel to what the French proposed in terms of a constitution. The choice at hand was not a real choice between independence with all the ties ruptured, in the case of Niger, or autonomy. They had to be seen also to submit. But one only really submits to Allah and not to the goal. And this is something that in terms of the context of Niger, certainly fueled some of the anger of what happened in 1958.
Leon,
Un dernier mot que je pense tiendra en une phrase ou deux, simplement pour dire que dans ce socialisme tout à fait particulier qu'est le socialisme catholique de Kayibanda, il y a effectivement également une grande place pour la mobilisation des populations. Ce leitmotiv revient constamment dans une logique de développement de l'homme intégral sous tous ses aspects et dans un développement, ce qu'il appelle un développement harmonisé. Donc il revient toujours chez lui l'idée de la mobilisation, mais qui profite d'abord au plus grand nombre.
Très bien. Merci à la salle, merci aux présentants. Et on aura une petite pause.
Coffee break.
Bon, c'est bien passé. Oui.